France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je me sens européenne. Je sens que je suis née européenne. Je sentirai toujours que je dois être plus proche de l'Europe que de la Russie.
La jeune génération est absolument convaincue qu'elle peut même lutter contre le gouvernement, si c'est nécessaire, pour les idées européennes en Géorgie.
Je pense que notre génération est très différente car la Gen Z pense à des choses de manière mondiale, globale. Être européen, ce n'est pas qu'un mot ou un statut, c'est être libre.
Depuis quelques mois, le doute n'est plus permis. La Géorgie a beau réaffirmer son souhait de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, elle ne cesse dans les faits de se rapprocher de Moscou. Certes, il y a eu, dans l'émotion provoquée par l'invasion de l'Ukraine et sous l'impulsion de la société civile, le dépôt officiel d'une candidature à l'Union européenne. C'était le 3 mars 2022. Mais depuis, l'ancienne République soviétique n'a rien fait pour améliorer son bilan démocratique, jugé insuffisant par Bruxelles. Le gouvernement, dirigé en sous-main par un milliardaire ayant fait fortune en Russie, préfère donner des gages au Kremlin. Tbilissi a refusé d'adopter des sanctions économiques contre la Russie. Plusieurs réfugiés russes critiques de Vladimir Poutine ont été expulsés de Géorgie. Et le 7 mars dernier, le Parlement adoptait en première lecture une loi qualifiant d'agents de l'étranger les organisations recevant plus de 20% de financement de l'étranger, un texte faisant étrangement écho à une loi russe. Mais cette politique favorable à Moscou se heurte aux aspirations de la société civile et en particulier de la jeunesse. Après des manifestations massives, durement réprimées, le gouvernement a finalement reculé et retiré son projet de loi. Mais les jeunes géorgiens veulent plus. Ils ne voient pour leur pays que deux destins possibles, soit la liberté au sein de l'Union européenne, soit la tutelle de la Russie, dont les troupes occupent déjà un cinquième du territoire géorgien depuis la guerre éclair de 2008. En Géorgie, la génération Z veut l'Europe ou rien. C'est un reportage signé Arnaud Contreras. Donc en reportage, nous accueillerons aujourd'hui Tornike Gordadze, politologue, enseignant à Sciences Po. C'est aussi l'ancien ministre géorgien en charge des relations avec l'Union européenne. Il sera en direct de Bruxelles. Avant de le retrouver, nous allons bien sûr écouter le reportage d'Arnaud Contreras. Bonjour Arnaud.
Bonjour Ali.
Vous étiez en Géorgie au moment de ces grandes manifestations contre le projet de loi sur les agents de l'étranger et vous avez été frappé par la mobilisation de la jeunesse.
Oui, c'était assez impressionnant de voir tous ces adolescents, ces étudiants dans la rue, qui s'appelle eux-mêmes Gen Z, la génération Z. C'est un mouvement assez spontané, il n'y a pas vraiment de groupement politique, hormis le Shame Movement, le mouvement de la honte qu'ils ont eux-mêmes créé. Ça se caractérise par un rejet de la classe politique, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'engager à leur tour dans la politique, s'investir en politique pour l'Europe.
Alors, nous allons tout de suite à Tbilissi, devant le Parlement géorgien, à la rencontre de cette jeunesse pro-européenne.
Je m'appelle Mariam Jeglishvili, j'ai 19 ans, je suis géorgienne. Je manifeste contre la loi russe, je manifeste avec mes amis qui sont ici, avec mes amis de la fac, et nous essayons de repousser la Russie pour aller plus vers l'Europe. Je suis étudiante en fac de médecine. 20% de la Géorgie est occupée par la Russie, donc bien sûr nous sommes dans la rue, parce que nous sommes la nouvelle génération, le futur nous appartient.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour vous personnellement cette semaine ?
Cette semaine a tout changé pour nous, parce que je veux vivre en Europe, je veux vivre dans un bon pays, et l'Europe nous a apporté un grand soutien. Des commentaires sur Facebook, sur Instagram, qui nous ont donné la motivation pour venir ici et protester ici avec mon peuple. C'est toujours sympa de sentir que le monde entier nous soutient. Personnellement, pas mon université, mais d'autres universités, comme des étudiants de la fac de médecine, ont pris la parole. La fac de théâtre a pris la parole. J'ai vu ma génération prendre la parole. Nous avons manifesté, nous avons pris la parole, et la plus grande partie de la foule, c'était des personnes de ma génération. Je veux que le gouvernement sache que ce n'est pas fini. On va revenir, on va manifester, on va se protéger, on va protéger nos lois, et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que notre avenir soit meilleur.
Est-ce que la guerre en Ukraine pour votre génération a un peu plus réveillé le sentiment européen ?
J'ai toujours détesté la Russie, depuis que je suis enfant, parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à mon peuple. Aujourd'hui, je vois ce qu'ils font au peuple ukrainien. J'étais déjà là l'an dernier pour manifester quand la guerre a commencé en Ukraine. Je me sens européenne. Je sens que je suis née européenne, parce que je suis européenne. Je soutiens tout ce qui peut être fait contre la Russie. Je suis européenne. Je soutiendrai toujours l'Europe. Je sentirai toujours que je dois être plus proche de l'Europe que de la Russie.
Nous sommes au musée de la littérature géorgienne. On l'appelle musée, mais ce sont principalement des archives. Je suis Lasha Bakradze, directeur de ce musée. Je suis spécialiste en littérature et historien.
Lasha, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez trouvé lors de vos recherches sur les liens entre l'Europe et la Géorgie ?
Cette différenciation entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, que l'on nommait Libye du temps des Grecs, a été faite par les Grecs anciens. Au début, ils affirmaient que la rivière Phasis marquait la frontière entre l'Europe et l'Asie. C'est la rivière Rioni aujourd'hui, dans l'ouest de la Géorgie. Par la suite, ils ont mis la frontière sur le fleuve Don. Donc, selon la géographie scolaire, la Géorgie ne fait pas partie de l'Europe. Mais selon leur propre appréciation, les Géorgiens se considéraient profondément européens, du fait qu'ils appartenaient à un pays chrétien, mais aussi parce qu'ils étaient très proches de la culture grecque.
Lasha, quelle est la place de l'imaginaire européen dans l'histoire géorgienne, dans la littérature géorgienne ? Est-ce que cet imaginaire a évolué au cours du XXe siècle ? Et est-ce qu'il évolue aujourd'hui, au début du XXIe siècle ?
L'Europe, dans l'imaginaire géorgien, est démocratique. C'est un espace de liberté. Cela rend l'Europe très attractive pour les Géorgiens. Mais au Moyen-Âge, après la chute de l'Empire byzantin, ce fut une rupture dans les relations avec l'Europe. De nombreuses ambassades furent créées en Europe pour leur demander d'aider la Géorgie. Même pendant l'Empire mongol, des lettres furent envoyées par les rois géorgiens aux rois européens. Lorsque les pays d'Europe de l'Ouest ne nous envoyèrent pas d'aide, les Géorgiens pensèrent que la Russie était aussi un pays européen. Je dirais un pays européen de seconde main. Et la Russie, pays européen de seconde main, vint en Géorgie au début du XIXe siècle.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'époque, il y a un siècle et demi, la Russie était considérée comme une influence européenne, une influence culturelle européenne, mais que ce regard a évolué.
Oui, cette idée a bien évidemment disparu pendant la période soviétique. Mais durant la période impériale russe, même au XIXe siècle, les relations entre la Russie et l'Europe étaient changeantes. D'un côté, ils voulaient être européens, de l'autre, non. Il est aussi intéressant d'observer les intellectuels russes qui ont émigré en Europe après la révolution de 1917. Car ils n'aimaient pas l'Europe. Et cette idée d'Eurasie, que la Russie ce n'est pas l'Europe, que c'est l'Eurasie, idée toujours très utilisée par Poutine et compagnie, cette idée est née au sein des émigrés russes en Europe après la Révolution.
Comment est-ce que vous avez vu évoluer la volonté de la part de la Russie, ou sous l'époque soviétique ou maintenant, d'effacer l'idée d'Europe en Géorgie ?
Pendant cette période de colonisation de la Géorgie et du Caucase, il s'est passé, comme dans les pays d'Europe, cette vague d'orientalisme. Les gens ici dans le Caucase sont très sauvages et la civilisation arrive grâce à la Russie et ce type de manière de penser impérialiste. Et il est très intéressant d'observer que jusqu'à aujourd'hui, dans les pays occidentaux, il n'y a pas de compréhension de la manière avec laquelle font fonctionnait cet empire russe. Qu'est-ce qu'une colonie de l'empire russe ? Je me suis rendu l'année dernière au musée ethnographique de Vienne. Et ils ont une grande carte du monde, avec pour thème l'impérialisme et le colonialisme. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? On ne voit sur cette carte du monde que les colonies des pays européens. Et la partie post-soviétique est blanche. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que la Géorgie ? Qu'est-ce que l'Arménie ? Qu'est-ce que le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan ? C'était des colonies. L'essence de l'impérialisme russe a été utilisée par la Russie, par exemple, pour la propagande contre l'Ukraine. Ils affirment que l'Ukraine fait partie de la Russie. Et pendant toute cette période de l'Empire russe, l'Ukraine n'était pas considérée comme une nation. Il y avait une grosse différence entre l'impérialisme européen et l'impérialisme russe. Dans ces combats en Ukraine, une grande majorité des Géorgiens sont aux côtés de l'Ukraine parce que nous vivons la même expérience avec notre gros voisin, la Russie, et aussi le même grand espoir que l'Ukraine vaincra et que la Russie sera tellement défaite que cette manière de penser l'impérialisme russe disparaîtra doucement. Ce sera une bonne chose aussi pour le peuple russe.
Je m'appelle Nino Lomjaria, je suis l'ancienne défenseur des droits, ombudsman de Géorgie, et maintenant je suis activiste de la société civile et défenseur des droits de l'homme.
Quand vous étiez en charge, Nino, comment est-ce que vous avez vu évoluer l'idée anti-européenne ? À quel moment est-ce que vous avez vu la bascule ?
Il est devenu très évident pour moi que le gouvernement soutient des groupes extrémistes pro-russes, quand l'an dernier, des groupes d'extrême droite pro-russes et des personnes soutenues par le Kremlin et qui ont un programme politique ici ont ordonné la dispersion brutale d'une manifestation LGBTQ. Ils avaient annoncé qu'ils seraient violents, ils ont appelé leurs supporters à descendre dans la rue et à être violents, et la police n'a rien fait. Et il y a eu aussi de nombreuses annonces du Premier ministre de la Géorgie, du maire de Tbilissi, Karakaladze, qui ont encouragé cette dispersion brutale et qui ont encouragé les groupes d'extrême droite à être violents ce jour-là. Ça a été pour moi très clair quand la police n'a pas utilisé les forces adéquates pour arrêter les violences envers les journalistes et la communauté LGBTQ l'an dernier. Et aussi le fait que ces personnes ont brûlé le drapeau de l'Union européenne qui flottait sur le Parlement géorgien. Et aussi le fait que les forces de l'ordre n'ont pas fait d'enquête sur la dispersion brutale de cette manifestation. Le fait qu'ils n'ont pas poursuivi les organisateurs de cette dispersion, malgré le fait que moi-même, en tant que défenseur des droits, ombudsman, j'ai présenté des preuves claires aux forces de l'ordre que certaines personnes étaient les organisateurs et avaient organisé ces exactions. Ils avaient incité des violences envers les journalistes et la communauté LGBTQ et ils n'ont pas été condamnés. Pour moi, ce fut le moment où j'ai clairement compris que le gouvernement n'était pas pro-européen et qu'il était pro-russe.
It is a very common understanding that Ivanishvili is informal governor of this country.
Il est admis qu'Ivanishvili est le dirigeant informel de notre pays. Il prend des décisions et il influence. Et évidemment, nous pensons qu'il est la personne qui se tient derrière ces initiatives. Et le résultat, c'est qu'en ce moment, le gouvernement géorgien est uniquement soutenu par les hommes politiques russes. Les hommes politiques russes et les propagandistes sont les seules personnes qui font l'éloge du gouvernement géorgien, du premier ministre géorgien. Et si on regarde la chaîne de télévision de propagande russe, si on écoute les formulations et la rhétorique du premier ministre géorgien, du leader du parti au pouvoir, on peut aisément se rendre compte que les mots, les phrases et la manière de parler, le contenu de la propagande sont très similaires.
Après les déclarations des derniers jours qu'il y a eu autour de la candidature à l'Europe, est-ce que vous êtes inquiète pour cette candidature à l'Europe? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement cherche à s'éloigner de plus en plus de cette candidature.
Je suis encore plus optimiste après ces manifestations. J'ai plus confiance sur le fait que nous aurons de meilleures chances que notre candidature soit reconnue, ce qui est vital pour la Géorgie. Et je veux porter ce message auprès de nos amis européens, en France et dans d'autres pays. Si notre candidature n'est pas reconnue cette année, cela va renforcer la propagande russe en Géorgie. Et cela sera une énorme frustration pour le peuple géorgien qui croit au fait que nous, en tant que nation, nous, en tant que citoyens qui luttons physiquement pour les valeurs européennes, nous méritons d'être reconnus comme pays candidat à l'Union européenne. Initier cette loi sur les agents étrangers fut très douloureux pour de nombreux citoyens géorgiens, parce que cela rappelle la répression de Staline qui a eu lieu dans les années 30. Le gouvernement soviétique avait emprisonné, fusillé, tué toutes les personnes qui avaient une éducation occidentale en Géorgie. Tous les citoyens qui avaient étudié en Europe, ceux qui parlaient des langues européennes, ceux qui ne partageaient pas les idées soviétiques. Il n'y a pas une seule famille en Géorgie qui n'a pas subi cela. Par exemple, mes deux arrière-grands-parents ont été tués sans procès. Mes grands-parents ont été tués parce qu'ils ont été désignés comme agents étrangers. Et maintenant, moi, leur petite fille, je devrais être désignée et discréditée et sujette à la même répression. C'est vraiment une question de dignité, vous savez. C'est peut-être trop émotionnel, mais pour les Géorgiens, c'est une question de dignité que nous ne permettrons jamais à un gouvernement géorgien influencé par les Russes de désigner des personnes éduquées, ouvertes d'esprit, comme agents étrangers.
Je m'appelle Levan Berzenishvili. Je suis philologue, professeur à l'université Ilias à Tbilissi, ancien prisonnier politique au Goulag. Nous sommes au Stamba, qui était un endroit particulier sous l'Union soviétique, car c'était un grand bâtiment où toute la presse géorgienne était regroupée. C'était un lieu de censure, un lieu de propagande. Et maintenant, c'est l'un des plus beaux hôtels de Tbilissi, avec un bon café, bon hôtel, etc. C'est donc un symbole du changement en Géorgie. Maintenant, nous vivons dans un autre pays. Je suis aussi un ancien député et j'étais à la tête du comité pour l'intégration de la Géorgie en Europe. Donc je suis un gars expérimenté qui lutte pour les ambitions européennes de la Géorgie. Je fais partie de la majorité des Géorgiens, car plus de 85% des Géorgiens veulent l'adhésion à l'UE. Mais en ce moment, nous avons un gouvernement qui est en désaccord avec cette immense majorité. Et la jeune génération, elle, est absolument convaincue qu'elle peut même lutter contre le gouvernement, si c'est nécessaire, pour les idées européennes en Géorgie.
Alors, ce que vous dites à propos de l'Europe et de l'adhésion des Géorgiens à l'Europe, on le ressent vraiment à Tbilissi, dans les sphères intellectuelles, culturelles, mais est-ce que c'est vrai pour tout le reste de la Géorgie ?
In big cities, yes.
Dans les grandes villes, oui, et dans toute la partie ouest du pays, parce que personne n'a de lien économique avec la Russie. Les personnes qui ont des liens économiques avec la Russie, ce sont les producteurs de fruits en Kartli, dans la région de Gori et dans d'autres endroits, et les producteurs de vin en Kareti. Parmi les producteurs de vin, la moitié d'entre eux est prête à produire du bon vin pour l'Europe et les États-Unis et le monde entier. Et l'autre moitié d'entre eux produit du mauvais vin. Et le mauvais vin est bon uniquement pour les Russes. Ils savent que les Russes leur achètent tout type de vin de Géorgie. Ces gens-là sont des supporters de la Russie. En vrai, ils ne sont pas pro-russes, ils sont pro leur portefeuille.
Est-ce que vous avez peur que des événements comme ce qui vous est arrivé, à savoir qu'une de vos conférences a été empêchée par des groupes d'extrême droite, vous avez peur que ces éléments se reproduisent de nouveau en Géorgie et en réponse à ces manifestations pro-européennes ?
S'ils ont l'opportunité de m'arrêter ici, à Tbilissi, ils l'utiliseront. Mais c'est impossible ici parce que mes étudiants sont mes combattants. Ils sont mes légions. J'ai des étudiants incroyables et ils participent tous à ces immenses manifestations des derniers jours. Ils ont tous été empoisonnés par des gaz lacrymogènes. Je suis si fier que nous les ayons. Ils sont bien meilleurs que ceux de ma génération. Et ma génération avait pourtant lutté pour l'indépendance. Maintenant, nous avons des jeunes gens éduqués dans les universités géorgiennes. C'est quelque chose de très nouveau. En Géorgie, nous avons plus de 100 universités pour un pays qui n'a que 3 millions d'habitants. Dans chaque village, vous avez une université. Ça, c'était une idée du président Mikhail Saakashvili. À l'époque, je m'étais opposé au projet parce que cela en faisait beaucoup trop. Mais maintenant, je comprends que c'était une bonne idée pour les jeunes, car maintenant, ils sont tous bien éduqués et tous soutiennent le sentiment européen en Géorgie. Ils s'opposent à la Russie et ils s'opposent même au gouvernement géorgien si le gouvernement est soutenu par la Russie et n'est pas ami avec l'Ukraine et avec l'Europe. Ils sont très unis autour des idées européennes. Pour eux, ce n'est pas qu'un choix, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose pour lequel ils sont prêts à se battre et même pour lequel ils sont prêts à mourir.
Bonjour, je m'appelle Nouka, je suis géorgienne et ces jours-ci, nous avons de grands problèmes à être européens, à être libres.
En quoi cette loi mettait en danger votre sentiment européen ?
Si cette loi russe est adoptée, ce sera affreux pour nous. On va revenir à l'URSS, ce qui n'est vraiment pas bon pour nous. Ce n'est pas la première fois que je participe à une manifestation. J'étais là pour les manifestations pour notre candidature à l'Union européenne. C'était pendant l'été. Quelque chose d'important est en train de se passer maintenant. Il y a un grand changement et on veut qu'il y ait du changement.
Est-ce que cette semaine a changé votre génération, vous pensez ? Parce que c'est la première fois que je vois dans les rues de Tbilissi autant de jeunes de votre âge.
Je pense que notre génération est très différente, car la Gen Z pense à des choses de manière mondiale, globale, le droit à être LGBTQ, être protégé, être libre. Je pense que la génération d'avant n'était pas si forte. Ok, ils étaient forts, mais pas autant que nous, parce qu'ils étaient effrayés par plein de choses. Dans notre génération, nous avons quelque chose qui nous aide à être plus libres. On peut montrer nos émotions, on peut partager nos pensées. C'est pas comme si quelqu'un allait nous tuer pour ça, mais dans le passé, ils pouvaient se faire tuer. Je pense que c'est ça la différence aujourd'hui. On a cette liberté que nos parents n'avaient pas.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre sentiment européen et pourquoi est-ce que vous et votre génération, vous avez envie d'être européen ?
Dans le passé, les Géorgiens disaient « Nous sommes Géorgiens, donc nous sommes Européens ». Et on avait ce sentiment que nous étions Européens. Nous nous définissions comme Européens en tant que personnes libres, indépendantes, mais nous ne le sommes pas. Je pense que les gens se définissent comme Européens parce que nous en avons besoin, par-dessus tout pour être libres. Depuis l'existence de la Géorgie, nous avons été Européens pendant longtemps, mais les gens ne le réalisaient pas. Être Européen, ce n'est pas qu'un mot ou un statut, c'est être libre. C'est pourquoi les gens ne pensent pas à être Américains. La première chose, quand on pense à l'Europe, c'est la liberté. Vous avez la chance de parler librement, mais en Géorgie, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi nous voulons être Européens. Pour moi, ça changerait des choses. D'abord, les gens s'accepteraient mieux, tels qu'ils sont. Deuxièmement, à propos de l'éducation, nous avons un système éducatif, mais il a vraiment besoin d'évoluer. Je pense que si nous adoptons des changements, il progressera, parce que je sais comment le système éducatif fonctionne en Europe, et on doit poursuivre des études plus longtemps ici. Si on avait un petit peu plus de ce système, ce serait bien pour nous. Je pense qu'être européen, ça améliorerait notre système de santé, ce genre de choses. Je pense que ça aiderait ma famille et notre pays.
Sur notre gauche, on est en train de voir arriver une foule. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe exactement ?
Par exemple, là, nous voyons une foule qui demande au gouvernement d'empêcher cette loi. La plupart de la foule, ce sont des jeunes, des Gen Z, et ils se battent pour nous. Ils disent « Nous sommes Géorgiens, donc nous sommes Européens ».
Ils
crient « Géorgie, Géorgie ». Je pense que je vais les rejoindre parce que mon université participe aussi. On doit bouger. Merci.
Là, c'est mon bureau. Et c'est un cabinet de thérapie quand on a trop de monde. Là, c'est le bureau où l'équipe travaille. Et voilà nos médecins. Ici, on accueille des personnes qui ont vécu un traumatisme du fait d'autres personnes. Des victimes de guerre, victimes de torture, victimes d'abus sexuels, victimes de violences domestiques. Réfugiés, par exemple, maintenant nous avons des réfugiés ukrainiens, des réfugiés tchétchènes, d'anciens prisonniers. Donc nous avons des groupes de patients très variés, de tous âges. Là, c'est un cabinet de thérapie. Je m'appelle Leyla Tsakirishvili, je suis psychologue. Je suis la directrice du Centre géorgien pour la réhabilitation socio-psychologique des victimes de torture. En ce moment, il y a une démarche d'association avec l'Union européenne et une démarche de candidature à l'UE. Et la Géorgie a échoué en juin dernier, alors que la Moldavie et l'Ukraine l'ont obtenu. Il y a 12 conditions que la Géorgie doit remplir. Et l'une des conditions, par exemple, et l'accroissement de l'engagement des organisations de la société civile et l'accroissement de la coopération avec le gouvernement. Ce qui vient de se passer avec ces tentatives d'adopter une loi russe est une attaque directe envers les recommandations de l'Union européenne. C'est pourquoi il y a d'énormes manifestations et nous en avons vu le résultat. Et je pense que c'est un message clair envers le gouvernement que nous ne voulons pas de la Russie ici. On sait ce qui s'est passé en Russie quand ils ont voté la même loi en 2012. Il n'y a plus aucune société civile en Russie. Toutes les organisations ont été fermées. Avant d'être fermées, elles ont été désignées comme agents étrangers. Nos collègues ont été emprisonnés. Nous pensons, nous, organisations de la société civile, les médias indépendants, que le gouvernement va commencer à mener des attaques ciblées contre des individus, des organisations. Ensuite, ils vont encourager des groupes violents et les soutenir, ces groupes alt-right. Je pense que les personnes de ces groupes extrémistes qu'ils présentent comme conservateurs sont en fait des personnes qu'ils paient. Quand vous voyez dans la rue ces groupes agressifs de l'alt-right qui manifestent, ce sont des extensions informelles du parti au pouvoir, le Georgian Dream. Donc cette loi russe, outre le fait de se débarrasser des ONG, permettrait au gouvernement de se débarrasser aussi des médias indépendants. Ils auraient champ libre juste pour eux.
En quoi cette loi menaçait l'existence de votre organisation non gouvernementale ?
Cette ONG a été créée en 2000. On travaille depuis 23 ans. L'essentiel de notre budget provient de l'Union européenne, comme toutes les ONG en Géorgie. Pour vous donner un peu d'éléments de contexte, après la chute de l'Union soviétique, nous avons connu une guerre civile, puis un conflit armé où nous avons perdu une partie de notre territoire. Donc c'était le bazar, ok ? À la fin des années 90, des personnes ouvertes au progrès ont commencé à créer des ONG. Et ces ONG sont devenues des piliers essentiels pour le progrès que la Géorgie a connu au cours des deux dernières décennies. Notre ONG, nous sommes le principal prestataire de services pour le ministère des Affaires sociales. Une grande majorité des enfants géorgiens qui ont été abusés sexuellement sont accompagnés par notre organisation. Le budget de notre organisation provient de l'extérieur de la Géorgie. Ce sont les Européens qui paient la prise en charge des enfants qui ont été violés en Géorgie pour qu'ils reçoivent un accompagnement de qualité. C'est la même chose pour les enfants handicapés, pour les personnes qui ont des troubles mentaux, ceux qui ont besoin de soins palliatifs. Tous ces domaines sont financés par des donateurs occidentaux et le gouvernement géorgien utilise ces services. Et maintenant, ils tentent de désigner ces organisations comme agents étrangers. C'est ridicule. C'est invraisemblable. Cela peut paraître invraisemblable, mais une fois de plus, en 2012, quand ce processus a débuté en Russie, les gens n'avaient pas une compréhension claire de ce qui pourrait suivre. Maintenant, on voit bien ce qui s'est passé en Russie. Donc, c'est ce qui nous serait arrivé si cette loi russe avait été adoptée ici.
Il y a quelque chose qui, du point de vue français, est assez étonnant, c'est que les membres du parti au pouvoir, Georgian Dreams, ont la même histoire que vous. Leurs grands-parents ont aussi ont été déportés, fusillés, ont subi le joug de l'URSS. Quelle est leur logique ?
Je pense que les Français sont liés de manière intime avec la notion de collaboration. C'est de cela dont on parle ici. C'est du collaborationnisme avec la Russie au travers d'un oligarque, Bidzina Ivanishvili, qui dirige le pays de manière informelle, qui possède tout le pays. Si on regarde par cette fenêtre, sur la droite, c'est tout son territoire où il va construire des immeubles immenses.
Et Léla, quand vous voyez la vague de populisme qu'il y a dans l'ouest de l'Europe et une partie de l'Europe centrale, est-ce que ça ne brise pas un petit peu ce rêve européen ?
De notre point de vue, depuis notre pays, tout cela est financé par la Russie. Nous avons une connaissance intime de la manière avec laquelle la Russie procède et de quoi la Russie est capable. Il y a une certaine naïveté en Europe et cette prétention occidentale de savoir à notre place ce que nous voulons en Europe de l'Est, en Ukraine, en Géorgie. Il y a une grande naïveté en Europe. Cette vague populiste, nationaliste, est très bien organisée et financée par la Russie. C'est comme cela que nous voyons la situation depuis cette partie du monde.
Wow. Nous sommes sur l'avenue Rustaveli en face du Parlement géorgien. Je retransmets la manifestation en direct sur Facebook. Je m'appelle Bekar et je suis blogueur.
Blogueur
conservateur. Je publie des informations sur ce qui se passe dans les mouvements conservateurs qui deviennent de plus en plus forts aux États-Unis. En Europe, je suis un grand supporter de leaders européens comme Marine Le Pen, Matteo Salvini, et en Amérique, le précédent président Donald Trump. Ces jours-ci, ça a été l'anarchie. Ce ne sont pas les valeurs européennes.
Pour vous, qu'est-ce que c'est les valeurs européennes ?
Ma valeur principale, c'est le christianisme, les valeurs familiales. Et nous sommes contre l'idéologie LGBT. Notre pays d'abord, comme Donald Trump le disait, America first. Nous devons dire la Géorgie d'abord. Tous les agents étrangers, comme les journalistes disent, c'est de la propagande russe, c'est ce que la Russie dit. Non! Dans notre relation avec la Russie, nous voulons récupérer nos territoires occupés et nous voulons une relation pacifique et amicale.
De l'extérieur, on a l'impression que vos mouvements en fait, font tout pour que la Géorgie n'intègre pas l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une mauvaise compréhension ?
Nous n'acceptons pas leurs valeurs. Pour nous, ce ne sont pas des valeurs. Ce sont des valeurs antichrétiennes. Ils veulent que nous changions. Nous ne voulons pas d'une telle Europe. Nous ne voulons pas être amis avec elle. Nous voulons être amis avec les forces chrétiennes, avec l'Europe chrétienne.
Vous n'avez pas peur que la Russie en profite pour prendre votre pays et que vous et vos enfants, vous n'ayez plus le choix de votre avenir et que vous, de nouveau, vous deveniez sous le joug russe ?
Non, je n'ai pas peur. J'aurais peur si je ne parviens pas à faire quelque chose pour mon pays, pour mes enfants, s'ils ne sont pas chrétiens. On doit protéger notre pays. Nous ne voulons pas être en guerre avec la Russie comme en Ukraine. Nous avons peur qu'en Géorgie, après l'Ukraine, il y ait la guerre. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas être en guerre avec la Russie.
Comment est-ce que vous avez perçu le fait que la loi se retirait ?
Je suis pour cette loi. S'ils veulent dire que cette loi est russe, peut-être que nous voulons la même loi. Mais non, ce n'est pas une loi russe. Chaque pays doit se protéger des agents étrangers, des ONG, qui se nomment eux-mêmes société civile. Non, ce n'est pas la société civile. Ce sont des agents de l'étranger, comme George Soros, USAID et d'autres. Ces gens devant moi, c'est ça, la société civile.
Ça, c'est notre salle commune. Là, c'est Tamta, notre chef de la presse. Là, c'est Chalala, notre coordinatrice. Et elle s'appelle aussi Salomé. Elle s'occupe des ressources humaines. Notre directrice est là, Natia.
Hi. And Ukrainian flag.
La drapeau ukrainien, bien sûr.
This is the poster from our
Ça, c'est l'affiche de notre marche des femmes.
On est devant une affiche, en fait, qui représente le drapeau européen avec des slogans féministes, c'est ça ?
Yeah, it's like
oui,
Russian
elle
law.
Dit you can non à la loi russe. Vous pouvez prendre like notre choix européen. C'était pour le 8 mars. Les femmes contre le contrôle total. Control.
Yeah. I'm Salome Barker, I'm 33 years old.
Je m'appelle Salome Barker, j'ai 33 ans. Je suis marketing manager de l'ONG de femmes Sapari, installée à Tbilissi en Géorgie, et je suis activiste au quotidien. Quand le parti géorgien DREAM a gagné les élections avec ce Bizdina Ivanishvili comme leader, j'étais suffisamment âgé pour savoir que quelque chose se passait et que la Russie était impliquée. Et il était différent par rapport au précédent gouvernement. Lors des élections de 2012, ce Bizdina Ivanishvili a ouvertement déclaré que nous ne devrions pas être un sujet de discussion entre la Russie et l'Europe, que la Géorgie ne devait pas être un problème entre la Russie et l'Ouest. Ils sont toujours dépendants de l'Église. Ils ont toujours l'argument selon lequel nous sommes une nation qui a une seule religion. Donc, dans les églises, le dimanche, vous pouvez avoir des vidéos de prêtres qui disent toujours que, oui, nous devrions nous rapprocher de la Russie parce que nous sommes tous les deux des pays orthodoxes et qu'en Europe, il se passe des choses que nous ne voulons pas ici. Donc oui, la Russie a des liens forts et très étroits avec l'Église orthodoxe géorgienne et ils sont contre les valeurs européennes.
Salomé, à quel moment est-ce que vous avez décidé de fonder le mouvement Shame et à quel moment, en fait, vous êtes impliqué dans cette mouvance qui devient énorme aujourd'hui en Géorgie et qu'on voit dans les manifestations?
It was in 2019 when the ruling party invited the.
C'était en 2019 quand le parti au pouvoir a invité Sergei Gavrilov, un député de la Douma russe. Tout le pays a vu la retransmission live depuis le Parlement, quand ce député russe s'est assis sur le fauteuil du président de l'Assemblée géorgienne et qu'il a lu un discours aux députés en russe. C'était tellement choquant. Je ne peux même pas décrire à quel point. On était là, mais putain, c'est pas possible. Je me souviens qu'un événement Facebook a été créé qui avait pour titre « C'est une honte ». J'ai couru en dehors de chez moi, vers le Parlement. On était tous très en colère. Gavrilov s'est immédiatement enfui du Parlement. Il s'est enfui à Moscou immédiatement. Tout le monde s'est retrouvé à 7h du soir devant le Parlement pour manifester contre ce qui venait de se passer. Et on a demandé que le président du Parlement démissionne. Et là, s'est produit quelque chose que nous n'avons pas trop apprécié. Des politiciens de l'opposition sont montés sur la scène. Ces hommes politiques de l'opposition ne sont pas vraiment appréciés. Ils sont déconnectés de nous, vous voyez, ils ont leur propre programme. Les jeunes Géorgiens ne les aiment pas trop. Donc quand ils ont commencé à parler aux manifestants, la foule est devenue très très hostile. Et ensuite, un truc bizarre s'est produit. Ces politiciens ont annoncé qu'ils allaient s'asseoir autour de la table avec le parti au pouvoir pour discuter ou convenir de quelque chose. Et là, on a réagi en leur disant, mais qui vous a dit de parler en notre nom? Qui êtes-vous? On était vraiment très en colère. Là, la police a évacué toute la manifestation. Ils ont tiré sur nous des balles en caoutchouc, des gaz lacrymo, des canons à eau. Et là, j'ai décidé de créer un groupe pour organiser les manifestations le lendemain, pour prendre ce sujet entre nos mains. Parce que les hommes politiques ne disent pas ce que l'on souhaite, donc à nous de le faire, par nous-mêmes. Nous, des gens normaux, de simples citoyens. Plein de personnes étaient d'accord avec moi. Donc, avec des amis, on a commencé à rassembler des haut-parleurs, à collecter de l'argent pour les manifestations. On avait besoin de micro, d'un budget, et on a organisé des manifs tous les jours, chaque soir. Le nom des manifestations était tout le temps et chaque jour, c'est une honte, jour 1, c'est une honte, jour 2, c'est une honte, jour 3, et on a fait cela pendant 100 jours. On était en face du Parlement, des choses pas géniales se sont passées, mais on ne s'est pas arrêté, on a tenu 3 mois, et on a fondé ce mouvement avec le groupe fondateur des manifestations, on l'a appelé Shame Movement, le mouvement de la honte. C'était vraiment une petite démocratie au sein de ce groupe. On demandait tout le temps aux gens, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Qu'est-ce que vous voudriez? Si vous nous envoyez de l'argent pour les manifs, nous l'utiliserons pour ceci, pour cela.
Salomé, lors de la création de ce mouvement Shame, est-ce que le désir d'Europe était déjà présent?
L'année dernière, quand l'Ukraine a demandé à être candidate à l'Union européenne, le Premier ministre géorgien et notre gouvernement nous ont dit que nous n'allions pas la demander. Nous n'allions pas remplir le dossier de candidature. Pourtant, vous savez, on est un trio, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. On a toujours été ensemble. Alors, quand l'Ukraine et la Moldavie ont rempli leur dossier, notre gouvernement nous a dit non, nous ne sommes pas prêts, nous, on ne va pas demander cela. Donc, on a organisé une manifestation. Le Shame Movement a organisé une manifestation. manifestation en face du Parlement. Nous étions 120 000, peut-être 150 000 personnes, tous pacifiques. Nous demandions juste que le gouvernement remplisse ce dossier de candidature à l'Union européenne. Et le jour suivant, ou le surlendemain, ils ont fait comme l'Ukraine et la Moldavie. Au Shame Movement, nous avons souvent déclaré que nous voulions l'Europe, tellement. Alors on a fait pression sur le gouvernement pour qu'il le fasse. Vous savez, dans la constitution géorgienne, il y a un article à propos de ça, qui dit que nous avons des aspirations occidentales et que chacun doit les poursuivre. Mais parfois, notre gouvernement décide de l'éviter. Alors nous, on essaie juste de leur rappeler la constitution pour qu'ils continuent de marcher tout droit sur le chemin de l'Europe.
En Géorgie, la génération Z veut l'Europe ou rien. Un reportage d'Arnaud Contreras avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Juste une précision, Arnaud, au sujet de cette musique un brin anxiogène qui concluait votre reportage. Vous ne l'avez évidemment pas choisie au hasard, elle a une histoire.
C'est l'histoire surtout de ces canons sonores qui sont utilisés pour disperser les manifestants à Tbilissi. Et les étudiants et lycéens se sont mis à danser devant les canons sonores. Et il y a un label ukrainien qui leur a offert un remix. Et maintenant, sur les murs de Tbilissi, on peut voir fleurir ce slogan « On n'arrête pas un peuple de ravers avec des bruits qui dérangent ».
Alors je salue maintenant notre invité. Bonjour Tornike Gordadze.
Bonjour.
Enseignant à Sciences Po, ancien ministre de Géorgie en charge des relations avec l'Union européenne et vous êtes justement en direct de Bruxelles. Ces jeunes Géorgiens, que veulent-ils exactement pour vous? Est-ce qu'ils sont surtout en demande de protection ou en quête d'un idéal?
Ces jeunes Géorgiens, surtout, ils ont vu arriver leur pire cauchemar quand ils ont vu que cette loi d'inspiration russe allait être adoptée. Il a été même adopté en première lecture par la majorité parlementaire composée des membres du rêve géorgien, donc ce parti fondé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Ces jeunes Géorgiens, depuis qu'ils sont nés, entendent dans la bouche de la plupart des politiciens, des personnes publiques en Géorgie, que le but, l'objectif de la Géorgie, c'est de se rapprocher le plus possible de l'Union européenne et de devenir membre de l'Union européenne. Et pour la première fois depuis leur naissance, parce qu'ils ont une vingtaine d'années, entre 17 et 25 ans, pour la plupart de ces manifestants, ils ont entendu un gouvernement qui leur dit non, nous avons d'autres priorités, l'Europe c'est mal, l'Europe veut nous pousser à avoir une guerre avec l'Ukraine, l'Europe c'est les LGBT, c'est contre le christianisme, contre les valeurs traditionnelles de la Géorgie, etc. Donc ça, c'est un discours qu'ils n'ont peut-être pas compris à quel point pour ces jeunes, c'était un discours totalement cauchemardesque et comment ça a réveillé ces jeunes à qui on a souvent reproché auparavant d'être passifs politiquement, de ne pas aller dans les manifestations organisées par les partis de l'opposition, d'être un petit peu, de passer leur temps dans les boîtes de nuit avec ces musiques underground, techno, électro. Bah, pour la première fois, on a vu ces jeunes, et on a vu à quel point ils pouvaient être efficaces quand même. C'est en grande partie grâce à eux que le gouvernement a retiré cette loi. Je pense que c'est une victoire tactique temporaire, parce que le gouvernement n'a absolument pas renoncé à son objectif de s'aborder finalement cette candidature de géorgienne à l'adhésion à l'Union européenne.
Tout en essayant de ne pas être trop taxé d'être pro-russe. Il essaye quand même de brouiller un peu les pistes.
Évidemment, ça c'est ça fait partie de la stratégie du gouvernement, cette ambiguïté qu'ils ont maintenue pendant des années. Lorsque certaines personnes, certains observateurs, y compris moi-même, quand j'essaye d'expliquer en Occident que ce qui se passe, c'est que ils maintiennent cette ambiguïté pour ne pas attirer, à la fois pour ne pas complètement perdre la confiance du peuple géorgien qui est en son immense majorité pro-européen, mais aussi pour ne pas attirer les foudres de l'Union européenne ou des États-Unis, lorsqu'il s'agit de critiquer les États-Unis aussi. Encore aujourd'hui, en Géorgie, dans les ministères, au niveau technique, vous avez des gens qui sont tout à fait pro-européens, qui sont tout à fait engagés pour faire les réformes que demande l'Union européenne. Mais au niveau de la direction politique, le pays a vraiment changé de direction, d'orientation politique, et ce changement est devenu vraiment tellement évident, surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine, où on ne peut plus jouer ce jeu double. C'était d'ailleurs, je vous rappelle, en 2013-2014, le jeu de Yanukovych qui, en Ukraine, qui a récolté le Maïdan. Yanukovych n'a jamais dit directement qu'il était pro-russe, au contraire, il disait qu'il poursuivait le rapprochement avec l'Union européenne, sauf qu'au moment de la signature de l'accord d'association, il a fait son choix en faveur de la Russie, et la révolution de Maïdan a eu lieu à ce moment-là.
Alors derrière le gouvernement pro-russe, il y a l'oligarque Bidzina Ivanishvili qui s'est enrichi en Russie dans les années 1990. Je crois que c'est la psychologue qui disait qu'il possède tout le pays. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça ?
Monsieur Ivanishvili a une fortune colossale, surtout comparée aux dimensions de ce petit pays de 3,7 millions d'habitants. La fortune de Monsieur Ivanishvili, d'après le journal Forbes, est évaluée, équivaut à peu près à entre 35 et 40% du PIB annuel du pays. Donc vous imaginez, il n'y a qu'un seul équivalent dans le monde, c'est le sultanat de Brunei et la richesse du sultan de Brunei. Donc il a une fortune absolument colossale, et donc son influence sur la politique géorgienne est colossale. Même si officiellement, il n'occupe aucune fonction politique en Géorgie, il a été Premier ministre brièvement et il a démissionné, mais tout le gouvernement actuel est constitué des créatures de M. Ivanishvili. Les ministres, la plupart des ministres sont des personnes qui ont personnellement travaillé dans les différentes compagnies de M. Ivanishvili, ont géré ses affaires. L'actuel Premier ministre est quelqu'un qui a été employé de M. Ivanishvili. La même chose pour le ministre de l'Intérieur. Le chef de la Cour suprême, c'est son ancien avocat, etc. etc. Donc son influence sur le pays est absolument fondamentale et déterminante. La majorité des membres, des parlementaires élus par le Georgian Dream, leur élection a été personnellement approuvée par M. Ivanishvili. Donc ça, effectivement, je ne sais pas s'il contrôle la totalité du pays, mais en tout cas, c'est la personne qui est le plus influente et qui, en tout cas, contrôle totalement le gouvernement, peut-être pas le pays en entier.
Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre, selon vous, de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili ?
Alors, Madame Zourabichvili est dans une situation compliquée parce qu'elle a été élue, même si elle n'est pas membre du parti Rêve géorgien, elle a été élue en 2018 avec le Rêve géorgien comme soutien et par le soutien personnel de Monsieur Ivanishvili. D'ailleurs, son élection a été très fortement critiquée par l'opposition à cause des irrégularités qui ont entaché ces élections. Depuis cette période, Madame Zourabichvili a pris ses distances vis-à-vis du gouvernement parce que ce gouvernement progressivement devient de plus en plus pro-russe. Madame Zourabichvili, elle n'est pas pro-russe, elle n'est pas, en tout cas, étant donné sa carrière diplomatique, parce que c'est une ancienne diplomate française, on ne peut pas lui reprocher d'être pro-russe. Donc, elle a accepté, malheureusement, ce deal de la part du milliardaire Ivanishvili, mais maintenant, elle prend des distances vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, on attend qu'elle prenne des distances aussi vis-à-vis de ce leader informel du pays, Ivanishvili. C'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'elle aura besoin de beaucoup de courage et d'encouragement de la part des Occidentaux afin qu'elle passe cette ligne rouge qu'elle n'a pas encore franchie.
Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, user de son pouvoir de grâce présidentielle et gracier l'ancien président Mikhail Saakachvili ?
Alors, elle a peu de pouvoir constitutionnellement, parce que la Géorgie, c'est une république parlementaire. Ses prérogatives sont très très réduite. Mais, et là, vous avez raison, et là, le droit de grâce. Et en Géorgie, il y a plusieurs prisonniers politiques. Il y a l'ancien président Saakachvili qui est dans une santé extrêmement déclinante, et les médecins craignent vraiment du pire. Il a été même empoisonné en prison d'après ses médecins. Et il y a aussi d'autres prisonniers politiques comme le directeur de la principale chaîne de télévision critique vis-à-vis du gouvernement, donc la
principale chaîne de télévision non contrôlée par le gouvernement, qui est en prison. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison avec des charges totalement ridicules, notamment l'utilisation de la voiture de fonction par les membres de sa famille. Madame Zourabichvili pourrait gracier d'abord Monsieur Gvaramia, donc le directeur de cette chaîne de télévision, mais aussi le président Saakashvili. Et là, évidemment, là, elle va rencontrer une résistance très forte de la part du gouvernement, mais aussi, je crains, du leader informel du pays, de ce milliardaire. Donc, c'est un peu le moment de vérité pour elle dans les mois à venir, et j'espère qu'elle pourra franchir ce pas.
Je reviens aux attentes des jeunes Géorgiens. Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est plutôt rejoindre l'Union européenne, une union donc politique et économique, ou bien l'OTAN, alliance centrée sur la sécurité, la défense collective ?
Alors, l'un ne remplace pas l'autre. L'OTAN, c'est la sécurité.
Oui.
Pour les Géorgiens, adhérer à l'OTAN, c'est d'avoir ce ticket de protection contre la menace principale et permanente que représente la Russie pour eux. L'Union européenne, c'est plutôt une alliance qui est fondée sur les valeurs démocratiques, sur les valeurs libérales, sur les valeurs... Quand je parle libérale, je parle pas forcément de l'économie libérale, mais aussi du respect des droits de l'homme, des minorités. Vous avez vu à quel point maintenant ces partis pro-russes qui sont liés au gouvernement, ces partis d'extrême droite, insistent maintenant sur le conservatisme à la Trump. Tout ça, c'est quand même extrêmement nouveau et on voit les oreilles de KGB derrière tout ce genre d'affirmations. Donc ces jeunes aspirent aux deux, à l'Union européenne pour la démocratie, pour le modèle de société, pour les valeurs et pour ils aspirent aussi à l'OTAN pour leur sécurité, tout simplement, parce que sans la sécurité, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas de développement.
Alors, on peut douter que d'ici la fin de l'année, la Géorgie coche toutes les cases réclamées par Bruxelles et fasse toutes les réformes attendues. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée que l'Union européenne puisse accorder reconnaître la candidature du peuple géorgien plutôt que de celle du gouvernement ?
Alors, c'est une question très délicate parce que, objectivement, quand on regarde le comportement du gouvernement géorgien, ce gouvernement ne mérite pas le statut. Mais la population géorgienne a montré à maintes reprises qu'elle était très attachée à l'idée européenne. Et même quand on prend d'autres critères, par exemple, sur le plan de l'opinion, par exemple, la Géorgie est beaucoup plus avancée que la Moldavie par rapport à son attachement à l'Europe. En Géorgie, c'est 80% de la population qui est pour l'Europe, pour l'adhésion à l'Union européenne, tandis qu'en Moldavie, c'est 50%. L'État géorgien fonctionne mieux que l'État moldave, par exemple. Donc là, c'est des critères objectifs. Mais malgré ça, on a un gouvernement qui n'a pas de désir politique d'aller vers l'Europe. Donc il faudrait trouver une formule. Je pense qu'il ne faudrait pas refuser, il ne faudrait pas fermer la porte à la Géorgie, parce que ce serait une erreur historique, parce que c'est une opportunité, une fenêtre historique, et ça serait idiot de rater cette opportunité. Cette fenêtre pourrait se refermer pour les décennies à venir. Donc il faudrait absolument trouver une solution pour ne pas fermer la porte à la Géorgie, lui donner un statut de candidat, mais en insistant très clairement, et que la clarté est le mot d'ordre, pour que le gouvernement fasse exactement ce qui est à faire pour remplir les critères d'adhésion. Il y a 12 points que l'Union européenne a demandé à la Géorgie, mais ces points aujourd'hui sont interprétés à leur façon par le gouvernement. Par exemple, il y a un point sur la déoligarchisation du pays, et le gouvernement utilise la demande de l'Union européenne contre ceux qui financent les partis de l'opposition et non pas pour l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui est M. Ivanishvili, l'homme qui a une fortune de plusieurs milliards et qui domine la vie politique du pays de façon évidente.
Alors juste en un mot, on a entendu cet enthousiasme de la jeunesse qui est une force, mais est-ce que ça peut vraiment représenter une alternative politique puisqu'on entendait ces jeunes dire « les hommes politiques ne disent pas ce qu'on souhaite, ils veulent autre chose ».
Exactement. Donc c'est tout ça maintenant, et il est absolument nécessaire, puisque dans n'importe quelle démocratie, les élections sont gagnées par les partis politiques. Je comprends la déception de ces jeunes par rapport aux partis traditionnels de l'opposition, qui n'ont pas réussi à changer la situation depuis 12 ans. Donc c'est à eux de trouver une expression politique avec des figures alternatives et de créer un mouvement politique qui pourrait se transformer plus tard en une force politique capable de gagner les élections.
Merci Tornike Gordadze. Des remerciements aussi à à Régis Janté et Nino Shimakadze pour leur aide sur place. En Géorgie, la génération Z veut l'Europe ou rien. Le grand reportage de cette semaine était signé Arnaud Contreras avec Annie Bro à la réalisation et Marie-Claire Oumabadi à la technique. Merci à la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.